15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Bonjour et bienvenue dans votre nouvelle émission Santé et Bien-être, une émission que nous avons baptisée Sans Rendez-vous, parce que chez nous, pas besoin de réserver une place, la porte est ouverte, vous venez quand vous voulez. Tous les jours, nous répondons à vos interrogations, idées reçues, petits bobos, grands dossiers, questions sexo. Sans Rendez-vous, l'émission dans laquelle vous allez tout comprendre et surtout où nous allons parler de tous les sujets, sans tabou, c'est sur Europe 1. Il est à mes côtés tous les jours, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie.
Alors pour nos auditeurs qui ne vous connaissent pas encore, je vous présente, vous êtes médecin urgentiste et ici, du lundi au vendredi, c'est de la santé des auditeurs d'Europe 1 dont nous allons prendre soin. Alors au sommaire aujourd'hui, notre grand dossier sera consacré au cannabis thérapeutique. Alors que l'agence du médicament vient de donner son feu vert à son expérimentation dans certaines maladies, pour qui justement, sous quelle forme, on fera le point avec notre invité, le professeur Serge Perrault, rhumatologue et grand spécialiste français de la douleur. Le docteur Jimmy Mohamed, lui, nous livrera son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il va nous parler des risques et des bienfaits du hammam et du sauna. Ensuite, dans notre chronique Les Bobos du quotidien. Aujourd'hui, on parlera de notre consommation de sel. Quelle dose ne faut-il pas dépasser et que risque-t-on vraiment quand on mange trop salé? Enfin, vers 15h50, ce sera la chronique sexo de l'émission avec Catherine Blanc, notre sexologue. On va parler d'éducation sexuelle. Mais tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
Et donc tout de suite, on écoute la première question, c'est celle d'Émilie, 26 ans, on écoute sa question.
Oui, bonjour Mélanie, bonjour docteur, voilà, j'ai une petite question un petit peu intime, ça me gratte en bas, bon vous l'aurez compris. Je ne sais pas quoi faire pour calmer les démangeaisons, est-ce que c'est une mycose, qu'est-ce que je dois faire, est-ce qu'il faut que je consulte mon médecin généraliste, voilà, merci beaucoup pour votre réponse.
Alors merci Émilie pour votre question. Alors je précise qu'on ne va pas vous proposer une consultation en direct. Ici, ce n'est pas ce qu'on fait dans son rendez-vous. Mais on peut donner quelques conseils. D'abord Jimmy, quand ça gratouille donc au niveau génital, ça peut être effectivement une mycose. On rassure tout de suite Émilie, la mycose c'est très fréquent chez les femmes.
Oui, c'est l'infection génitale la plus fréquente. Ce n'est pas grave. Et c'est dû à un champignon qui s'appelle le Candida albicans qu'on a de façon naturelle dans sa flore. La seule chose, c'est que lorsqu'il est en trop grande quantité et lorsque la bonne flore est en plus faible quantité, ça développe une mycose et donc ça gratte. Mais c'est pas grave, ça se traite et ça se traite assez facilement.
Et vous dites qu'il y a des bactéries dans notre flore vaginale, mais comme dans nos intestins.
Exactement.
Finalement.
Exactement, on en a partout. On a plus de bactéries que de cellules à l'intérieur de nous-mêmes. Et d'ailleurs, prendre trop de douches, ça tue la bonne flore. Donc on évite les toilettes vaginales un peu trop importantes parce que du coup, on peut avoir des mycoses quand on prend trop de toilettes.
Alors, la mycose, c'est fréquent, ça on a compris. Il faut rappeler aussi que c'est rarement grave, c'est ça?
Non, de ce qu'elle décrit, ça ne semble pas grave. Donc il suffit de consulter son médecin généraliste, le gynécologue ou la sage-femme. La sage-femme fait du suivi gynéco classique.
Bien sûr, il faut
remboursé par la sécurité sociale, on en a très facilement. Et puis en général, on prescrit un petit traitement antifongique, soit une crème, soit des ovules, et puis ça passe. Donc il faut consulter parce que ça va traîner.
Ça va être désagréable.
Ça passe pas tout seul. Et parfois, on est obligé de faire un petit prélèvement vaginal parce qu'une petite mycose peut en cacher une autre. Et parfois, lorsqu'on a des sécrétions un peu épaisses, des douleurs abdominales, un peu malodorantes, ça peut être une infection un peu plus importante. Et donc là, on traite avec des antibiotiques quand on pense que c'est bactérien.
Donc on peut avoir, vous avez dit, une crème éventuellement anti-démangeaison, des ovules aussi, parce que je crois qu'on peut aussi s'en procurer d'ailleurs sans ordonnance.
Votre pharmacien peut vous avancer ça quand c'est simplement ça me démange en bas.
Avant d'avoir un rendez-vous.
Exactement, ça peut aider et c'est efficace. Souvent, je vois des patientes qui ont eu ces traitements.
C'est des ovules qu'on s'insère soi-même.
Exactement, qui servent à traiter et c'est ce qu'il faut. C'est pas des bonbons qu'on leur propose, c'est un vrai traitement. Donc le pharmacien peut vous dépanner sans problème en premier recours. Si ça ne passe pas, il faut consulter.
Très bien. Alors on va passer à la deuxième question d'auditeur. Cette fois, c'est Cathy, 58 ans. On écoute sa question.
Bonjour Mélanie, j'ai une petite question. On m'a dépisté de plusieurs nodules sur la thyroïde, donc on m'a conseillé d'aller voir un endocrinologue. Bien sûr, ça m'inquiète quand même un peu. Est-ce que vous pensez que j'ai un risque élevé d'avoir un cancer de la thyroïde? Merci beaucoup pour votre réponse.
Alors Jimmy, on comprend l'inquiétude de Cathy, mais il faut préciser que ces nodules donc sur la thyroïde, c'est très souvent bénin en fait.
Oui, il faut pas s'inquiéter. C'est vrai que nodules, on pense cancer. Faut dire
ce qu'il y a. On se dit c'est des boules quoi.
Exactement.
C'est ça,
donc, mais c'est une petite grosseur. Alors il faut l'étudier. Et ce qu'il faut savoir dans les nodules de la thyroïde, il y en a deux types. Les nodules qu'on appelle froids. Et les nodules froids, c'est ceux qui ne sécrètent pas d'hormones. Et dans 95% des cas, ces nodules sont bénins. Donc on ne fait rien, si ce n'est de les surveiller.
Régulièrement.
Exactement.
Tous
on
les
fait
ans,
un contrôle
tous les
échographique,
deux ans,
ça dépend de la taille et du nombre. Dans 5% des cas, c'est quand ça peut être cancéreux. Et donc dans ces cas-là, oui,
là,
on traite.
Là, c'est un nodule chaud alors, du coup,
et
à l'inverse.
Ah non. C'est 95% des nodules froids ne sont pas méchants. Il en reste 5% qui peuvent être cancéreux, donc là, on les traite.
Ah oui,
et puis on a une autre catégorie qu'on appelle les nodules chauds. C'est ceux qui sécrètent des hormones et qui peuvent être responsables d'hyperthyroïdie. Et dans ces cas-là, on donne un médicament. Et encore une fois, ils sont bénins. Ils ne entraînent pas de cancer. Donc l'immense majorité des nodules sont bénins et ne posent aucun problème.
À moins qu'ils provoquent une gêne, parce que parfois un nodule sur la thyroïde mal placé, ça peut donner des difficultés pour déglutir ou même une douleur. Donc là, éventuellement, on peut parler d'une intervention.
Et alors, c'est exactement ça, parce que les nodules, la thyroïde se trouve au niveau de la trachée et de l'œsophage. Et donc, quand il y a beaucoup de nodules ou qu'ils sont très gros, ils peuvent gêner la déglutition et ils peuvent entraîner ce qu'on appelle un goitre lorsqu'ils sont très nombreux. Et on voit effectivement au niveau du cou une espèce de tuméfaction. Dans ces cas-là, ça peut s'opérer, mais néanmoins, c'est rare, ça s'opère très facilement. Mais une fois qu'on n'a plus de thyroïde, et ben là, on est obligé de prendre des hormones.
Donc
et c'est
là,
pour
ça a des graves conséquences, effectivement. Même pour quelque chose de bénin, si on opère et qu'on est en traitement à vie, ben c'est plus lourd.
Lourd. Et puis, c'est vrai qu'il y a des conséquences à l'intervention. Il y a toujours un risque, hein. Même pour une appendicite, ça peut être compliqué. Donc, mais ça reste assez rare, donc pas de panique. Et en règle générale, ça s'opère très, très bien.
Merci beaucoup, Jimmy. Alors, si vous aussi, comme Cathy, qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions santé au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout n'hésitez pas, nous y répondrons très bientôt. Dans un instant, le docteur Jimmy Mohamed va nous parler, va nous donner son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il va nous parler des bienfaits et des risques du sauna et du hammam. Et puis, on accueillera aussi notre invité, le spécialiste de la douleur, le professeur Serge Perrault. Avec lui, nous ferons le point sur l'expérimentation du cannabis thérapeutique en France. Pour qui exactement? Et est-ce une porte d'entrée vers le cannabis récréatif? On vous dira tôt. À tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre nouvelle émission Santé et Bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour de la semaine jusqu'à 16h. À mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed, avant de retrouver dans quelques minutes le professeur Serge Perrault, grand spécialiste de la douleur, pour parler de l'expérimentation du cannabis en France très bientôt. C'est le moment du bon conseil du docteur Jimmy Mohamed. Alors aujourd'hui, Jimmy, vous avez décidé de nous parler des bienfaits éventuels et des risques, hein, des saunas et hammams. D'abord, c'est très différent l'un de l'autre, hein. Si on prend le hammam, par exemple, c'est quoi? C'est une sorte de bain de vapeur très humide. Hein.
Exactement, alors que le sauna c'est plutôt de la chaleur sèche et donc le hammam est un peu mieux toléré, ça dure un peu plus longtemps, on enchaîne plusieurs salles à des températures différentes et l'effet c'est clairement, on le connaît tous, c'est de la relaxation, c'est de la détente musculaire et aussi psychique, donc c'est un vrai moment de détente qu'il ne faut pas hésiter d'utiliser.
Et est-ce qu'il y a des vrais bienfaits sur la santé, quoi, on va dire, hein, du hammam d'abord, hein.
Bah, ça permet d'avoir la peau douce et propre, ça dilate...
Alors, c'est au moins un bienfait beauté, quoi.
Exactement, en fait la chaleur dilate les pores qui permet d'éliminer les toxines et à ce moment-là on utilise souvent un savon noir qui permet de nettoyer la peau.
Je crois que vous êtes un grand expert.
Ah oui, mais ma femme s'y connaît très très bien en fait, donc c'est pour ça. Le savon noir permet de nettoyer la peau en douceur et de la nourrir, et puis parfois on peut faire en plus des inhalations à base d'eucalyptus, de sauge, de laurier, et finalement ça peut aussi aider quand on est un petit rhume, qu'on est un peu encombré, donc vraiment c'est quelque chose à faire.
Et le sauna alors, qu'est-ce que c'est? C'est quoi la différence?
Alors le sauna, ça agit sur le corps et l'organisme grâce à une chaleur thermique sèche. La séance se passe de la façon
suivante.
D'ailleurs
on voit très bien dans un sauna, là où dans un hammam on voit rien du tout.
Exactement, pas ce qui se passe. Ouais. Après une douche, on se sèche et puis on rentre dans une petite pièce en cabane, en bois.
Général, ouais.
Exactement, où la température varie entre 70 et 100 degrés.
Oui, donc c'est super chaud.
C'est plutôt très chaud. Et on reste globalement quelques minutes parce qu'après c'est mal toléré et les effets sont les mêmes. C'est détente musculaire et psychique, donc c'est aussi un moment de détente.
Alors le sauna, je crois qu'il y a quand même certains risques, hein. Vous pouvez nous rappeler lesquels?
Oui, alors femmes enceintes, on oublie.
D'accord. Les enfants non plus.
Les enfants aussi, on oublie.
Évidemment.
Les personnes qui ont des problèmes cardiaques instables. Le problème, c'est que le cœur se met à battre plus vite. Et si vous avez un cœur qui est fatigué ou malade, eh ben, il peut décompenser. Donc on évite lorsqu'on est cardiaque. Même chose lorsqu'on a une phlébite, on évite d'aller au sauna. Et chez l'asthmatique sévère mal équilibré, on évite aussi. Pour tous les autres, ça peut vous aider.
Une petite question, pas personnelle, hein, mais est-ce que ça fait maigrir? Parce qu'on se dit, on va beaucoup transpirer dans ces bains-là de vapeur ou de chaleur.
Non, évidemment, on ne maigrit pas. Alors, on perd de l'eau. Donc, comme on perd de l'eau, on se déshydrate. Et donc, sur la balance, effectivement, on a perdu quelques grammes. Mais finalement, dès lors qu'on va se remettre à boire, tout va revenir. Donc, non, on ne perd pas de poids avec ça.
Bon, un grand moment de détente, on l'a compris. Merci, docteur Jimmy Mohamed, pour tous ces conseils. Et tout de suite, nous accueillons notre invité pour le dossier du jour. Aujourd'hui, on parle du cannabis médical avec le professeur Serge Perrault, rhumatologue et ancien président de la Société française d'études et de traitement de la douleur.
15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1.
Alors bonjour professeur Perrault.
Bonjour Mélanie.
Alors vous dirigez le centre de la douleur de l'hôpital Cochin à Paris et je rappelle aussi le titre de votre livre « La douleur, je m'en sors » aux éditions In Press. Alors avec vous aujourd'hui on va parler du cannabis thérapeutique, cannabis médical. Et si on vous a invité, c'est parce qu'en tant que grand spécialiste de la douleur en France, vous avez à ce titre été membre du comité d'experts à l'Agence du médicament qui a étudié finalement tout ce qui a été testé, tout ce qui a été écrit sur le sujet d'un point de vue scientifique. Donc on est d'accord, cette décision de lancer cette expérimentation, c'est pas une décision qui a été prise en deux jours hein.
Pas du tout. L'été 2018, la ministre de la Santé a mis sur la table la question du cannabis thérapeutique, a saisi l'ANSM, l'Agence du médicament, et l'Agence du médicament a mis en place un comité d'experts, ce qu'on appelle un comité technique avec 12 experts qui ont travaillé pendant plus d'un an pour aboutir à des recommandations en juin 2019 sur l'expérimentation du cannabis thérapeutique.
Jimmy ?
Et qui sont ces 12 experts qui permettent de définir quels sont les malades qui pourraient prendre le traitement ?
Avec qui autour de la table
ouais. Alors, les 12 experts rassemblent d'une part des personnes du monde de la santé, des médecins spécialistes de la douleur, de soins palliatifs, des neurologues, donc des épileptologues, tous les domaines où on pense que le cannabis peut être utile. Et puis il y avait aussi des associations de patients, des représentants d'associations de patients, d'usagers, et puis aussi des sociologues, des philosophes, toutes les personnes.
Donc c'est pas que des médecins qui prennent des décisions entre eux pour les malades, on les
pas
prend avec
tout.
Les malades.
En plus, c'est pas nous qui avons simplement pris les décisions, nous avons auditionné également un très grand nombre de personnes pour se faire une idée. Bien sûr, l'idée, c'était pas de venir avec déjà nos idées préconçues, mais au contraire, d'écouter beaucoup de monde, d'écouter des spécialistes du domaine, français, étrangers, de nombreux pays, d'écouter aussi d'autres associations de patients qui sont prises avec cette question, sans aucun préjugé, et puis après de débattre avec eux et entre nous.
Donc on voit que la concertation, elle a été large, parce qu'en France, est-ce qu'on peut dire que finalement on était un petit peu en retard ? Parce qu'on sait que dans des pays voisins, même en Europe, tout près de chez nous, c'est déjà autorisé. C'est autorisé où d'ailleurs, à côté de chez nous ?
Alors il est clair que la France est en retard si on regarde en termes de timing, mais est-ce que ce retard ne sera pas peut-être bénéfique en termes de mise en place ? De nombreux pays l'utilisent déjà, l'Allemagne, l'Angleterre, la Hollande, l'Espagne. Donc c'est donc autorisé dans un grand nombre de pays. Mais on voit que dans certains nombres de pays, notamment en Allemagne, il y a des dérives. Les médecins n'arrivent plus à contrôler la situation. En Angleterre, c'est aussi compliqué. Donc finalement, ce retard permettra aussi peut-être de tirer les leçons de quelques erreurs pour vraiment mettre à disposition le bon cannabis pour les bons patients.
Eh bien, on en parlait justement des erreurs des autres pays, peut-être. Professeur Perrault, vous restez avec nous, on n'en a pas terminé. Dans un instant, on va rentrer dans le concret, justement, chez qui, c'est-à-dire quel type de patients vont pouvoir tester ce cannabis médical, sous quelle forme, et qui pourra le prescrire, justement. À tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous,
15h, 16h sur Europe 1.
Mélanie Gomez.
Nous sommes ensemble ce lundi jusqu'à 16h pour votre nouvelle émission Santé Bien-être, une émission sans rendez-vous. Vous êtes tous les bienvenus. À mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed et vous, professeur Serge Perrault. Je rappelle que vous êtes rhumatologue et que vous dirigez le centre de la douleur de l'hôpital Cochin à Paris. Alors, en France, on va donc expérimenter ce cannabis thérapeutique chez certains malades, vous allez nous dire lesquels. Mais c'est vrai qu'avant même qu'on lance cette expérimentation, il y avait beaucoup de patients, d'associations de patients qui ont dit on en a besoin, on est des centaines de milliers à en avoir besoin. Là, pour l'instant, cette expérimentation, ça va pas être open bar pour tout le monde.
Non, il est clair que là, il risque d'y avoir des déceptions. Alors, l'idée, c'est pas de mettre à disposition le cannabis thérapeutique pour tous les patients qui en ont besoin, parce que là, ça représente probablement un nombre très important de personnes. L'idée, là, c'est une expérimentation. L'expérimentation, c'est quoi ? C'est pas savoir si le cannabis thérapeutique est efficace, c'est savoir comment ça va se passer. C'est-à-dire, qui va prescrire, qui va renouveler, où est-ce que les personnes vont se fournir en cannabis, c'est-à-dire les pharmaciens, et pour les pharmaciens, bien sûr, ça nécessite toute une infrastructure. Quelle va être la durée de prescription ? Enfin, c'est tous les aspects pratiques. C'est quelque chose de très précis.
Jimmy ?
Alors, justement, dans l'expérimentation du cannabis thérapeutique, on va traiter certains types de douleurs. Vous allez nous dire lesquelles, mais d'abord, on considère qu'il y a combien de Français qui souffrent de douleurs aujourd'hui en France ?
Alors, l'expérimentation sur le cannabis thérapeutique va concerner d'abord 5 conditions. Pas seulement la douleur, mais aussi les spasmes douloureux de la sclérose en plaques, l'épilepsie rebelle, les soins de support en cancérologie, les soins palliatifs et la douleur. Pour la douleur, on considère en France qu'il y a à peu près 12 millions de personnes qui souffrent de douleurs chroniques, donc c'est énorme. Les médicaments, on le sait, ne sont pas très efficaces dans ces douleurs chroniques, voire mal supportées. Donc il y a à peu près, on estime, aux alentours de 4 millions de personnes qui justifieraient d'un traitement.
Qui n'ont pas de solution aujourd'hui de avec des médicaments, d'accord. Voilà. Et alors, pour eux, peut-être le cannabis thérapeutique.
Peut-être, mais il ne faut pas non plus, de ce côté-là, penser que le cannabis va résoudre tous ces problèmes. Le cannabis n'est pas un grand médicament de la douleur. Ça soulage un peu, ça détend.
Ça ne va pas être la révolution.
Ça améliore le sommeil, l'anxiété, mais ce n'est pas le grand médicament de la douleur, malheureusement.
Alors comment ça va se passer en France, d'ailleurs, donc on va rentrer dans le concret là, où les patients pourront se le faire prescrire? Est-ce qu'on peut aller chez son généraliste comme ça pour avoir une ordonnance de cannabis thérapeutique?
Non, alors donc ça va se passer en deux temps. Dans un premier temps, je l'ai dit, il y a cinq situations en France pour lesquelles le cannabis thérapeutique va être étudié, va être expérimenté, et chaque fois ça va être chez les spécialistes. Donc pour la douleur, ça, il y a 38 centres de la douleur en France qui vont participer à l'expérimentation. Donc c'est là que les patients vont avoir le début de leur prescription. Mmh. Donc ça va demander une motivation importante pour ces patients.
Pourquoi? Parce que ça va être contraignant pour
eux. Alors l'idée, oui, c'est que c'est des patients qui vont être extrêmement étudiés, qui vont avoir à remplir des questionnaires en ligne,
sur papier. Il faut être motivé
pour tester le cannabis. Il faut des médecins motivés aussi. Et puis donc on va essayer d'évaluer comment ça se passe. Et puis le généraliste pourra éventuellement donc poursuivre la prescription, renouveler la prescription. Les pharmaciens vont proposer le cannabis, mais ici, c'est compliqué, c'est des plantes. Donc le cannabis, il va y avoir plusieurs formulations avec les différents composants du cannabis, on en parlera tout à l'heure. Donc c'est tout ça qu'on va expérimenter. Quel type de cannabis, quel type de plante, pour quel patient, combien, et c'est ça qui est très complexe.
Et on sait que, par exemple, les patients qui souffrent de cancer sont sous chimiothérapie et souvent les traitements contre les nausées et les vomissements sont peu efficaces et certains prennent déjà du cannabis de façon...
illégal,
tout simplement, oui. et souvent un peu sous l'aval des médecins qui leur disent « bon, bah, je ne vais pas vous dire oui, mais pourquoi pas ?» Là, on peut espérer vraiment améliorer le confort et la qualité de vie des gens avec ça ?
Alors, il y a des études récentes qui sont sorties qui sont également assez décevantes. Il y a des bien meilleurs médicaments pour les nausées, des chimiothérapies à l'heure actuelle, beaucoup plus efficaces que le cannabis. Malgré tout, au long cours, le cannabis, on sait que ça augmente l'appétit, donc ça peut être utile, mais ici encore... Beaucoup d'idées sur le fait que le cannabis résoudrait tous les problèmes.
La question que tout le monde se pose, sous quelle forme ce cannabis thérapeutique va être consommé? On est d'accord, ça ne sera pas des joints à fumer. Hein.
Non, voilà. Donc le cannabis thérapeutique, d'abord, c'est des plantes. Ce n'est pas des dérivés synthétiques du cannabis qui existent déjà. Hein. Il y a le marinol, il y a l'épidiolex. Non, c'est des plantes, mais sous diverses formes. Des résines, des infusions, du vapotage, des gélules, du beurre, enfin toutes sortes de...
Des crèmes.
Des crèmes, toutes sortes de préparations qui vont être proposées par les spécialistes avec différents dosages, puisqu'on sait que dans le cannabis, il y a deux grands composés importants. Le CBD qui a plutôt un effet relaxant et qui va traiter plutôt l'épilepsie, et puis le THC qui va avoir plutôt un effet psychodysleptique, c'est-à-dire que ça vous fait planer. Et ça agit sur la douleur, et c'est tout ça qu'il faut considérer chez chaque patient.
Eh bien, on va en parler dans un instant, professeur Serge Perrault. Vous restez avec nous. Dans un instant, donc, on va continuer à parler du cannabis médical qui sera bientôt expérimenté en France. On verra aussi si c'est peut-être une porte qui s'ouvre vers la légalisation du cannabis récréatif. Restez avec nous sur Europe 1.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez.
De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, le professeur Serge Perrault, grand spécialiste de la douleur. Alors Serge Perrault, vous avez fait partie du groupe d'experts de la NSM, de l'Agence du médicament, donc qui ont travaillé sur cette expérimentation du cannabis médical. Alors justement, dans le cannabis médical qui va être testé en France, vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure, mais le cannabis, ça contient plusieurs substances, le THC, vous avez dit le CBD. C'est quoi qui va être en fait autorisé et utilisé dans quelle maladie en France ?
Le cannabis, c'est encore plus compliqué. C'est une plante. Donc, on sait qu'il y a à peu près 400 principes dans la plante.
Ah oui, moi j'en ai cité deux, mais il y
en
a 400.
Sur ces 400, il y en a 60 dont on connaît les propriétés. Et sur ces 60, il y en a 3 qui sont véritablement testés et qu'on peut doser. Donc, vous voyez que c'est très compliqué. Et selon la saison, selon l'endroit où ça pousse, selon l'ensoleillement, le taux des différentes substances du cannabis va varier. Donc, c'est pour ça qu'il faut un cannabis qui soit contrôlé, qui soit vérifié, qui soit dosé pour pouvoir le donner aux patients. C'est pour ça que c'est du cannabis médical, thérapeutique. Mmh. C'est une plante et ce n'est pas du cannabis de
qu'on pourrait faire pousser dans son jardin, même si c'est interdit, évidemment.
Exactement.
Jimmy ?
Et justement, donc on a compris que les patients auront accès peut-être sous forme de gélules, d'huile, peu importe. Mais certains me disent déjà qu'ils ont peur d'avoir un effet euphorisant, comme lorsqu'on fume un joint. Est-ce qu'on pourra ressentir ça ou pas du tout ?
Alors bien sûr, d'abord, c'est une prescription médicale, donc c'est le médecin qui, selon la maladie, va décider s'il va donner plus de CBD ou de THC, puisque ce sont ces deux composants qu'on connaît le mieux et dont on va faire varier le dosage selon le type de cannabis. C'est la prescription, fort dosage en THC, faible dosage en CBD, etc., selon la maladie. Donc ça, c'est le médecin qui va le décider, qui va le proposer au patient. Et l'expérimentation, elle vise à évaluer l'efficacité, mais aussi la tolérance. Donc c'est pour ça que c'est des patients qui vont être évalués extrêmement précisément. S'ils ressentent des effets désagréables, planants, euphorisants, qu'ils n'arrivent pas à maîtriser, eh bien il faut qu'ils appellent tout de suite leur médecin et ils vont être contrôlés. Mais a priori, les dosages ne sont quand même pas les mêmes dosages que ceux qu'on a dans le cannabis récréatif, où on a jusqu'à 35% de THC. Là, on n'aura pas ces dosages-là. On aura des dosages contrôlés, fixes, et qu'on va pouvoir évaluer.
Pourquoi on a besoin finalement de passer par une expérimentation en France? On se dit, vous nous avez dit en début de l'émission, il y a eu plein d'études scientifiques publiées sur le sujet dans certaines pathologies. C'est ça que vous avez étudié pour définir un peu le cadre de cette expérience. Du coup, l'efficacité, c'est bon, on n'est pas sûr. Pourquoi on expérimente encore?
Alors, l'efficacité, on n'en est pas sûr. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a un certain nombre d'études, mais dans aucune des pathologies, on est franchement convaincu. Ça peut être utile, mais je dirais que comme ce n'est pas non plus la panacée, eh bien, il faut expérimenter pour plusieurs raisons. Pour d'abord comprendre l'efficacité, mais surtout avec toutes ces particularités. Je vous ai dit, en France, on va expérimenter au moins 10 types de substances qui vont être dosées plus ou moins en THC, en CBD. Et ça, on ne sait pas dans la littérature, est-ce qu'il faut plus du CBD, du THC. On va avoir différentes formulations, des infusions, des résines, des gélules. Et ça non plus, quand on regarde la littérature, on ne peut pas le savoir. Donc l'expérimentation, elle est indispensable pour mieux comprendre en pratique qu'est-ce qu'on choisit comme produit pour soigner une maladie.
Jimmy ?
Et comment ça se passe dans les pays où le cannabis est déjà autorisé ? J'ai cru comprendre qu'il y a des pays où ça avait un petit peu dégénéré.
Effectivement, dans certains pays comme au Canada, comme en Allemagne, c'est un peu dégénéré.
C'est-à-dire
que il est facile de se trouver une douleur. Quelqu'un qui n'a pas de douleur, c'est assez rare. Donc il est facile de se trouver une douleur, une raison pour avoir accès au cannabis thérapeutique alors que peut-être on ne le justifierait pas. Et de faire passer sa demande récréative pour une demande thérapeutique. Et donc les frontières sont pas étanches. Et on passe maintenant dans certains pays de ce qu'on appelle l'épidémie d'opioïdes, où on a donné de la morphine à tour de bras de façon tout à fait illogique, à maintenant peut-être une épidémie de cannabis dans certains pays. Et c'est pour ça que l'expérimentation est essentielle pour pas qu'on passe, je dirais, de rien à un excès de cannabis pour tout et n'importe quoi.
Et en France, on va le trouver où on va le trouver où ces médicaments? Donc ces sprays, ces gélules, puisque en France, on n'en produit pas, a priori.
Alors en France, on va le trouver dans des pharmacies qui vont être dédiées à ce genre de prescription, enfin de délivrance. Et pour l'instant, la NSM donc a fait des auditions auprès de différentes firmes, des firmes anglaises, canadiennes, israéliennes, colombiennes, donc de différents pays où c'est déjà donc expérimenté, où il y a des producteurs. Et la production est importante parce qu'on doit savoir combien il y a de cannabis et les différents composants. Donc il faut des contrôles qualité et puis il faut des formulations diverses pour qu'on puisse proposer aux patients.
Donc là, on va aller les chercher au Canada, en Colombie, produits.
Voilà, pour l'instant, il y a des appels d'offres. NSM, donc autant le prix que les différentes formulations, mais surtout les contrôles qualité. Ce qui est très important, c'est qu'on sache.
Il n'est pas produit avec la même qualité partout.
Voilà, puisque d'une saison à l'autre, il peut y avoir des variations très importantes dans les composants du cannabis.
Jimmy ?
Et à terme, si on généralise, ça peut s'adresser à combien de patients potentiellement en France ?
Alors c'est difficile de le dire puisque pour l'instant, je pense que tous les douloureux chroniques ne devraient pas bénéficier forcément du cannabis. Mais on peut estimer, si on extrapole, pour l'instant, l'expérimentation notamment dans la douleur, c'est pour les douleurs neuropathiques, donc des douleurs liées à des lésions du système nerveux. Et c'est ces patients-là à qui on va proposer du cannabis thérapeutique. Ça va concerner.
Par exemple, les douleurs qu'on a après un cancer, parfois les neuropathies au bout des doigts, les douleurs au niveau des jambes.
Ou après une chirurgie, on vous a abîmé un nerf et vous avez des douleurs. Ou après le zona, par exemple. Et donc là, dans ces cas-là, on estime que l'expérimentation, ce sera à peu près 3000 personnes, 3000 à 4000 personnes. Mais pour une population de douleurs neuropathiques réfractaires qui est aux alentours de 200 à 300 000 personnes. Donc en tout, peut-être 1 million de personnes, peut-être.
C'est pas rien.
Oui.
Alors évidemment, la question qu'on se pose aussi, pour terminer, en France, il y a beaucoup de gens qui se disent, tiens, on autorise le cannabis thérapeutique, est-ce que c'est pas finalement ouvrir la porte maintenant vers la légalisation du cannabis récréatif? En tout cas, on va se poser forcément la question, non?
Alors effectivement, c'est compliqué d'un côté de dire que le cannabis c'est dangereux et de l'autre côté de le proposer à visée thérapeutique. Mais c'est la même chose pour la morphine. Hein. La morphine, on l'utilise pour traiter les douleurs, hein, et en même temps, on l'interdit dans le domaine public. Donc, tout médicament est une drogue avec le bon et le mauvais côté de la drogue. Hein. Voilà ce qu'on appelle le pharmakeion en grec. Donc, c'est le bon usage et c'est ça l'expérimentation. L'expérimentation, c'est le bon usage d'une substance sans préjugés, hein, mais le bon usage pour le bon patient avec le bon dosage.
Merci beaucoup professeur Serge Perrault pour toutes ces précisions sur l'expérimentation du cannabis thérapeutique qui devrait donc commencer en France en 2020. On a compris que ce sera en tout cas très encadré. Merci d'être venu sur notre plateau. Dans un instant, on va s'intéresser aux bobos du quotidien. Et cette semaine, on parle de notre consommation de sel. Si on consomme trop de sel, quels sont les risques? À partir de quand c'est trop, justement? On verra ça à tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Il est temps maintenant de passer à notre séquence Les bobos du quotidien. Cette semaine, on parle du sel dans notre assiette et justement, Benjamin Lévesque a été vous donner la parole à vous qui consommez peut-être trop de sel ou qui faites déjà peut-être très attention à la salière. On écoute son micro-trottoir.
Je mange encore trop de plats tout préparés qui, je sais, sont salés.
Même quand j'ai mis du sel avant, je rajoute du sel. Oui, c'est pas bien, je sais, mais écoutez, un petit steak avec un peu de fleur de sel dessus, c'est quand même pas dégueulasse.
À la maison, le sel est banni. On a une sorte de faux sel qui est sans sodium.
Les enfants, je leur mets pas. Je rajoute pas de sel du tout.
Alors déjà, à court terme, je pense que ça favorise pas mal le gonflement des organes, ça fait de la rétention d'eau.
Ça peut faire de l'hypertension, et de la déshydratation.
Ça bloque les reins, il me semble.
Oh bah ça bouche les artères, principalement ça, je crois. Ouais.
Alors je vais être très honnête, je ne sais pas, mais je sais que c'est pas bon pour la santé.
Alors, c'est que c'est pas bon pour la santé. Il y a plein de gens qui savent que c'est pas bon. Moi, personnellement, j'en mange beaucoup trop du sel. On me le dit tout le temps. Alors d'abord, Jimmy Mohamed, il faut dire, hein, si on prend les trois recommandations principales hein, dans l'alimentation, pas manger trop gras, trop sucré, trop salé, finalement, la dernière, c'est quand même celle qui est le moins entrée dans les esprits, je crois. Hein.
Mais j'ai quand même le sentiment qu'aucune n'est rentrée dans les esprits.
Gras, salé, sucré.
On a un mode de vie assez particulier. On mange très vite, on fait pas de vrais repas. Globalement, j'ai quand même l'impression que les personnes âgées font un peu plus attention.
Bah, le cardiologue, il le répète sans cesse.
Exactement, pas de sel, sans sel, sans sel. Et parfois, on est un peu psychorigide avec elle, de telle façon que finalement, elle ne mange plus
du tout.
Elle mange plus parce que le sel, ça donne du goût, c'est un exhausteur de goût, comme dans un aliment, parfois, c'est fade. Donc, attention, mais nous, on a beaucoup de consommation excessive de sel et souvent dans des endroits où on ne le suspecte pas forcément.
C'est quoi trop de sel, justement? À partir de combien? Enfin, d'ailleurs, je ne sais pas comment on peut mesurer sa propre consommation de sel, c'est difficile.
Alors, c'est vrai que c'est difficile. On considère qu'au-delà de 6 grammes, ce n'est pas recommandé.
Par jour, hein.
Par jour, 6 grammes par jour. Les personnes qui ont un régime sans sel, c'est 3 grammes. Et on sait que les hommes mangent, au travers de l'alimentation, avant de saler, environ 9 grammes de sel par jour.
Ce qu'il y a déjà juste dans ce qu'il y a notre, sans mettre la salière.
Sans mettre de sel. Et que les femmes prennent environ 7 grammes de sel par jour. Auquel on rajoute le sel de table, il faut rajouter 1 ou 2 grammes par jour en plus. Donc
finalement, on sale très peu la salière.
On sale très peu, mais quand même, si on rajoute ces 1 ou 2 grammes aux 8 ou 9 qu'on prend déjà.
On va rajouter 8 de plus, rien qu'avec la salière.
Ah oui, bah oui, mais du coup, on en prend vraiment trop.
Et c'est quoi le risque?
Le risque, c'est de développer des maladies cardiovasculaires au travers de l'hypertension artérielle. Et donc, qui dit hypertension dit souffrance de tous les organes potentiels, donc AVC, crise cardiaque. Et puis, on sait que manger trop salé expose au risque du cancer de l'estomac. Donc, autrement dit, c'est vraiment pas bon pour la santé.
Alors, vous disiez que ce sel, finalement, il n'est pas forcément, il ne vient pas toujours de la salière, en tout cas pas en majorité. Du coup, il est dans les aliments qu'on consomme. Et lesquels, par exemple, sont les plus salés, finalement?
Le pain, c'est salé. On ne s'en rend pas forcément compte. Manger une pizza, c'est salé aussi.
Ouais, ça, on imagine quand même.
Ah oui, mais oui, c'est aussi sucré. La charcuterie, on s'en doute.
Bon, ça paraît plus évident.
Les fromages aussi sont souvent
très salés. C'est pas que le sel le problème dans la charcuterie en plus. Hein,
exactement,
c'est gras,
oui, c'est aussi gras. Ouais. Et puis, le problème du sel, c'est aussi dans les préparations industrielles où il est parfois difficile de décrypter les étiquetages. Et parfois, on rajoute beaucoup de sel pour donner du goût, parce que c'est un peu fade, ou pour que ça se conserve un peu mieux.
Tout ce qui est tout prêt, quoi, par exemple, les lasagnes qu'on achète toutes prêtes.
Mieux vaut les faire à la maison. Ouais, alors, c'est compliqué, ça coûte moins cher quand même de les faire à la maison. Ça prend pas tant de temps que ça, finalement.
Vous avez l'air d'être un pro de la lasagne. Hein,
mais oui, ma femme est une pro de la lasagne, on va pas se mentir. Mais finalement, ça prend peut-être une demi-heure. On fait un plat qui tient pendant 2 jours, ça coûte moins cher.
Et puis on
surtout,
sait quel sel y a
on
dedans.
Sait ce qu'on a mis. Ouais, et puis on sait aussi ce qu'on a mis en termes de tomates, en termes de pâtes, de viande hachée. Donc vraiment, attention au plein industriel. Qui sont souvent bourrés de sel.
Même les petites soupes en briques, là, c'est très salé aussi. On se dit c'est des légumes, donc.
Exactement. Mais non, en fait. Mais les bouillons sont extrêmement salés, donc il y a certains aussi poissons qui sont salés, donc finalement il y en a un peu partout.
Et donc, on évite ces aliments dont vous parlez, les briques, les plats surgelés, enfin surgelés en tout cas tout près. Du coup, en fait, on bannit complètement la salaire. Donc, en fait, on bannit tout sel de notre alimentation, c'est ça?
Non, ou quand
c'est...
même pas. Il ne faut pas être psychorigide non plus. Il faut quand même faire un peu de plaisir dans la vie. Donc, si vous êtes en revanche insuffisant cardiaque, des problèmes cardiovasculaires, là, vous avez besoin de voir une nutritionniste qui vous donnera une liste d'aliments et on pourra gérer ensemble ce que vous pouvez prendre comme sel. Mais sinon, en évitant de rajouter du sel.
Est-ce qu'on peut être en carence de sel aussi?
C'est extrêmement rare. Globalement, on en prend un peu trop. Ouais. Mais si on ne prend pas de sel, là, ça peut être dangereux, notamment pour le cerveau. On en a besoin pour les neurotransmetteurs.
Ah, il est utile, ce sel.
Il est utile.
Quand même.
On en a besoin pour l'équilibre électrique et de l'eau, le bilan de l'eau dans le corps.
L'équilibre hydrique. C'est vrai qu'on est, on est fait d'eau, en fait. Hein,
exactement.
C'est ça.
En majorité à 60 à 70%. Donc, le rein équilibre finement ça. Donc, attention, le sel, on en a besoin. Donc, il ne faut pas que ce soit en excès ni en défaut.
Et alors, une autre astuce. Alors, ça, c'est la mienne. Hein, du coup, pour moins saler, c'est ce que je fais à la maison. Plutôt que de mettre du sel, ben, moi, j'utilise beaucoup d'épices. On m'avait conseillé ça lors d'un reportage une fois. Donc, on met des épices, on met du curcuma, du cumin, du gingembre. Alors, pas tout le monde en même temps, évidemment. Hein. On met des herbes aussi, du basilic. De la menthe, là encore pas tout en même temps, mais tout ça, ça permet donc de donner plus de goût et donc de ne pas avoir autant besoin de cet exhausteur
et
de goût.
Et on ne rajoute pas de sel dans les préparations pour les bébés. Hein, quand on fait la diversification, on a envie de leur mettre un peu de sel.
Bah oui, c'est meilleur.
Les purées n'ont pas de goût, mais si, pour les enfants, ça suffit. Donc on ne met pas de sel lorsqu'on fait la diversification des bébés.
Merci beaucoup, Jimmy, pour tous ces conseils. Dans un instant, la dernière partie de cette émission. Vous êtes avec nous jusqu'à 16h et restez surtout, car juste après, on se retrouve pour la chronique sexo de l'émission. Aujourd'hui, avec notre sexologue Catherine Blanc, on va parler d'éducation sexuelle. Qui du papa ou de la maman est le mieux placé pour répondre aux questions des enfants sur ce sujet? Elle nous dira. À très vite sur Europe 1.
Europe 1, Mélanie Gomez.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h, toujours à mes côtés le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine.
Bonjour à vous deux.
Alors avec vous tous les jours, à la fin de chaque émission, on va parler sexualité avec des sujets qui nous concernent tous, même si on n'ose pas forcément les aborder. Alors aujourd'hui, vous avez décidé de nous parler d'éducation sexuelle pour répondre à la question qu'on a reçue de Sophie, 44 ans, je vous la lis. Bonjour Catherine, qui des parents doit répondre aux questions sexuelles des enfants? Je dis à mon mari que c'est à lui de parler à nos garçons de 11 et 14 ans, que ce serait malsain que ce soit moi. Qu'en pensez-vous? Alors Catherine, concrètement, qu'est-ce qu'on peut répondre à Sophie? Moi, je vois pas pourquoi ça serait malsain en fait qu'elle s'en occupe, non?
Mais déjà, ça c'est la première réflexion que je trouve intéressante. C'est penser qu'une maman qui parle à ses garçons de sexualité, c'est comme si elle faisait l'amour avec ses garçons. Il n'y a rien de malsain à ça. Parler de sexualité à ses enfants n'est pas problématique. Ce qui est malsain, c'est de venir heurter nos enfants dans un sujet qui ne les concerne pas, qui n'arrivent pas en leur temps. Donc la question de savoir quel est le parent qui doit en parler, c'est celui qui est le plus tranquille,
le plus à l'aise, avec,
à l'aise avec ça. C'est celui qui est sollicité par les enfants, c'est celui qui sent que les enfants sont plus en sécurité pour en parler, parce que avec papa, il faut être aussi fort que papa, donc c'est plus compliqué. Mmh. Ou avec maman, elle est toujours dans les trucs, les bobos, etc. On préfère un truc plus léger.
Pareil avec les filles, c'est pas que les mamans, les papas aussi peuvent s'en mêler.
Exactement, dans la mesure, encore une fois, où on respecte les attitudes parfois réfractaires de l'enfant, qui veut savoir sans savoir, qui pose des questions sans écouter la totalité des réponses. Et c'est là tout l'art du parent. C'est de pas arriver avec son projet, mais écouter le besoin de l'enfant.
Jimmy ?
Bon, on peut parler donc d'éducation sexuelle à la maison, mais jusqu'où on doit aller? Parce qu'on n'est pas tous aussi à l'aise et les enfants ne sont pas tous égaux, n'ont pas forcément les mêmes questions. Où se trouve la limite?
Alors déjà, avant de parler de la limite, c'est de savoir ce qu'il ne faut pas mélanger dans éducation sexuelle. Toute la difficulté, pourquoi nous ne sommes pas à l'aise, c'est que nous ne sommes pas des profs de sexualité et d'éducation sexuelle. Donc nous sommes des humains avec notre propre sexualité et du coup avec nos propres inhibitions ou avec nos propres délices ou nos propres intérêts. Et finalement, ça ne concerne nullement notre enfant. Et c'est ça la difficulté, c'est de ne pas parler de ses peurs parce que moi j'ai eu des choses dramatiques ou de ses plaisirs parce que moi j'ai adoré ça.
Le mieux,
ça.
C'est pas parler de soi, c'est un enfant, de sa propre sexualité.
C'est ça,
mais
c'est la plus grande difficulté. Mmh. Parce qu'en général, on a toujours une référence, puisqu'on n'a pas écouté un cours.
On n'a qu'à parler des grands-parents alors, non?
Non, mais voilà, c'est de poser la question de qu'est-ce que l'enfant veut savoir. Hein, quand ils sont tout petits, ils veulent savoir comment on fait des bébés, c'est-à-dire comment on fait l'amour.
On répond quoi alors d'ailleurs à ça? Parce que ça, c'est quand même la question fondamentale. À un moment donné, un enfant va forcément vous poser la question. Enfin, souvent, en tout cas, on répond quoi à un enfant de 8 ans qui demande comment on fait les bébés?
Alors, déjà, les enfants souvent posent la question pour voir la gêne que ça provoque chez vous.
D'accord.
C'est-à-dire qu'en général, ils choisissent exactement le moment le moins opportun. C'est-à-dire, vous êtes à moitié au téléphone, vous êtes en train de faire la vaisselle, il y a quelqu'un qui est... Et à ce moment-là, ils posent la question pour voir si vous vous empourprez, pour voir si... vous, tout d'un coup, vous en perdez votre respiration normale. Et puis déjà, ça leur plaît, parce qu'ils savent que c'est un sujet. Mmh. Et quand vous commencez à dire, bon, alors, comme l'histoire de la bouteille de lait, eh bien, à ce moment-là, ils vous regardent un peu parfois goguenard ou méprisant, parce que franchement, vous ne vous débrouillez pas très bien, parce qu'ils ont déjà,
en fait, ils savent déjà
une
tout.
Partie d'informations. Et puis, quand vous commencez à rentrer vraiment dans le vif du sujet...
Et je lui dis quoi, alors, concrètement, dans le vif du sujet? Moi, j'aimerais bien avoir des conseils là-dessus.
Moi, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que, vous savez, il y a toutes ces histoires, les bébés, on les fait, les garçons dans les choux, les filles dans les roses, ou c'est la cigogne, etc. Alors, on rit, évidemment, parce que c'est n'importe quoi. Et si on dit les choses comme ça à l'enfant, il sait très bien que c'est n'importe quoi. Mmh. Mais ça veut dire des choses symboliques, puisque la cigogne, c'est le bec de la cigogne dans la cheminée. Tout ce qui est de l'ordre du jardinage, c'est aussi la petite graine qui va faire pousser les plantes, les fruits, les légumes, etc. Donc ça raconte bien de ce dont il s'agit. Donc on peut raconter ça si on a envie de le faire d'une façon imagée, mais après on dit, eh bien c'est la même chose entre un papa et une maman, c'est-à-dire que le papa va pouvoir donner à la maman, dans le sexe de la maman, l'enfant à 8 ans, c'est très bien, déjà depuis 2 ans et demi, 3 ans, il est tout à fait au fait de sa sexualité, de fait d'être garçon-fille et de fait que les parents ont un sexe.
Jimmy ?
Bon, moi, je ne suis pas très à l'aise avec tout ça, hein, mais du coup, si moi, je ne suis pas à l'aise et que j'ai du mal à dire ces mots, est-ce que je peux m'aider de support ? Est-ce qu'il y a des livres ? Ou au contraire, c'est peut-être encore plus bizarre avec des livres qu'avec les mots du papa ou de la maman ?
Voilà, on peut très bien dire, tu sais, moi, j'ai les mots d'un papa et d'une maman, mais essayons de voir ensemble avec les mots tes mots à toi. Et il y a effectivement des tas de bandes dessinées bien faites, pas pudibondes, ni trash, qui délicatement racontent, en passant par la végétation, les animaux, et puis les humains, comment effectivement se fait la sexualité. Et de façon tout à fait imagée. Encore une fois, les enfants ont une grande capacité à comprendre au travers de l'image l'écho du réel.
Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. Et donc à demain, voilà, c'est la fin de cette émission. Demain, on parlera notamment d'alimentation et de régime. Comment concilier perte de poids et plaisir? Comment maigrir sans se priver tout le temps? On vous dira tout.
15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1.